Partir à deux en amoureux, fuguer quelques heures ou plusieurs jours, souffrir une parenthèse durant laquelle notre seule préoccupation sera de nous aimer, vous le savez, c'est pour nous une clé d'amour durable. C'est pour cela que nous avons à cœur aujourd'hui de vous parler de Nomad Aventure, le voyagiste de l'aventure. Il est rare que vous puissiez vous offrir des vacances à deux, alors vous voulez qu'elles soient parfaites et comme l'on vous comprend. Cela signifie de trouver le savant dosage entre les découvertes humaines, les paysages époustouflants, les ambiances romantiques, les rencontres inattendues, tout ce qui vous permettra de vous créer des souvenirs uniques. Vous pouvez bien évidemment vous lancer seul dans l'organisation de ce voyage. Mais si l'idée est tout de même d'alléger votre charge mentale et de ne prendre aucun risque, on ne peut que vous conseiller d'imaginer le programme de votre échappée avec Nomad Aventure. Leur équipe de passionnés aura à cœur de vous concocter un itinéraire sur mesure. Les bords de Loire à vélo, l'ascension du Kilimandjaro, la traversée de Bali en scooter, ou encore la croisière dans les Cyclades ou la chevauchée en Mongolie. Croyez-nous, le plus compliqué sera de choisir l'aventure faite pour vous, pour votre couple ou votre famille. L'idée vous tente? Alors contactez l'équipe de Nomad Aventure de notre part et une bouteille de champagne vous sera offerte pour tout voyage sur mesure réservé avant le 30 juin. Merci Nomad Aventure. Bonjour et bienvenue sur Au cœur du couple, le premier podcast qui vous donne la parole sur votre vie de couple. Je suis Soisy Castelnérac, experte en bien-être amoureux et créatrice du concept Save Your Love Date.
Je suis Marie-Lise Richard, psychologue et thérapeute de couple.
Ensemble, nous voulons vous écouter, vous interroger, nous interroger sur les difficultés que vous vivez au sein de votre couple.
Mais nous souhaitons aussi vous éclairer, vous proposer des pistes de réflexion et des actions concrètes pour que votre couple s'en nourrisse.
Notre croyance, oui, l'amour peut durer toute une vie et le couple peut être un lieu de bonheur, d'épanouissement et de bonification.
Mais rien ne pourra se faire sans vous, sans votre investissement, votre temps et votre volonté. Notre premier conseil sera donc de prendre le temps d'écouter ces épisodes à deux, puis d'en discuter, voire même d'en débattre.
Ne reste qu'à vous souhaiter un bon et inspirant moment en notre compagnie. Aimer de tout son corps, chemin de libération vers une sexualité qui vous ressemble. Tel est le titre prometteur du premier livre de Flavie Ten, notre sexothérapeute préférée. C'est avec elle que je vais avoir la chance aujourd'hui d'échanger. Pour cela, j'ai épluché son livre et retenu quelques idées fortes que je pensais inspirantes pour vous. La connaissance de soi comme clé d'une sexualité épanouie. Les leviers et les freins de notre désir. L'impact de notre charge mentale sur notre vie sexuelle, ou encore la question de la co-construction de notre sexualité. Tout un programme. Nous ne pourrons malheureusement tout développer, mais je vous invite, si cet échange vous plaît, à vous procurer le livre de Flavie. Et, tout comme vous allez écouter cet épisode à deux, plongez-vous à deux dans ce livre pour comprendre, embellir, réveiller ou faire grandir votre sexualité. Belle écoute à tous. Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode d'Au cœur du couple. Je suis vraiment ravie de vous retrouver avec une belle invitée aujourd'hui que pour les plus fidèles auditeurs et les plus anciens auditeurs d'entre vous, vous connaissez certainement, puisque aujourd'hui, je vais avoir une conversation avec Flavie Ten. Bonjour Flavie.
Bonjour Soisy, bonjour à tous.
Ravie de te retrouver au micro d'Au cœur du couple pour un épisode un peu spécial aujourd'hui puisque on va pas recevoir un auditeur ou une auditrice, mais on va parler de toi et puis de ton livre surtout, Aimer de tout son corps, qui vient tout juste de paraître chez Erol Éditions. Donc je voulais avec toi pouvoir parler un peu de ce livre, parler de son contenu et puis évidemment ce qu'on aime avant tout ici dans ce podcast, donner des pistes d'action et de réflexion, dans l'autre sens plutôt, des pistes de réflexion et d'action à tous ceux qui vont nous écouter. Alors est-ce que tu veux bien pour commencer te présenter, parce que voilà, avec tous nos nouveaux auditeurs, il y a certainement qui ne te connaissent pas encore. Donc voilà, si tu peux faire une brève présentation de toi, puis après on rentrera dans le vif du sujet.
Avec joie. Donc je m'appelle Flavie, j'ai 37 ans et je suis sexothérapeute suite à une reconversion professionnelle il y a 6 ans maintenant. Donc j'exerce à Rambouillet et je reçois en consultation également en visio. Et donc, puisque c'est ça l'objet de notre rencontre aujourd'hui, je suis fraîchement l'auteur de ce livre dont on va parler, donc « Aimer de tout son corps ».
Bah, ma première question, écoute, elle, elle est assez directe. Est-ce que tu peux nous dire ce qui a motivé l'écriture de ce livre? À quel moment tu t'es levé un matin et tu t'es dit, mais j'ai envie d'écrire un livre sur ce thème?
Bah, à vrai dire, je me suis pas levée un matin en me disant j'ai envie d'écrire un livre sur ce thème. C'est que moi, j'ai une formation littéraire, je suis née avec un stylo dans la main, donc j'ai toujours écrit, j'ai toujours eu envie d'écrire, j'ai toujours rêvé d'écrire un livre, de le publier. Alors, dans mes rêves d'enfant, c'était clairement pas un livre de sexothérapie, enfin en tout cas de sexothérapeute, mais c'est vrai que du coup, l'idée a fait son chemin aussi quand j'ai commencé à exercer, pouvoir poser ma pensée, ma vision, et puis j'avais vraiment à cœur d'écrire un livre qui soit utile, à la fois qui soit beau, qui transmette une belle vision. Moi, j'ai vraiment une image de la sexualité qui est très belle, très joyeuse, et donc j'avais envie de transmettre ce message. Et puis voilà, quelque chose qui soit utile, concret, qui puisse, dans lequel les lecteurs, les lectrices puissent picorer et s'approprier des idées qui viennent les rejoindre. Donc voilà un petit peu le cheminement.
Alors écoute, c'est ce qu'on va essayer de faire passer aujourd'hui dans notre échange, ce côté, comme tu dis, joyeux de la sexualité. Et puis, je pense aussi beau. C'est quelque chose qui revient souvent quand on fait des épisodes ensemble avec des auditeurs ou des auditrices. C'est que ce que tu peux partager avec eux, les pistes de réflexion que tu leur donnes, les conseils, c'est que souvent ils disent c'est pas du tout ce que j'ai pu lire ou entendre avec d'autres sexothérapeutes ou dans des articles. Parce que je pense que toi, tu parles de quelque chose de beau. Tu vas parler d'abord et avant tout de la personne humaine avant d'aller évidemment un peu plus tard dans le côté un peu plus pratico-pratique, mais je trouve que ton approche elle est comme ça et elle est différente et ça on nous le dit beaucoup. Donc j'espère que, en tout cas j'ai envie que ce soit ça qui ressorte aussi de notre échange aujourd'hui. Donc le titre on l'a dit, Aimer de tout son corps, chemin de libération vers une sexualité qui vous ressemble. Quelle idée est-ce que tu as voulu porter avec ce titre et qu'est-ce que pour toi une sexualité épanouie?
Alors, aimer de tout son corps, je crois que c'est vraiment apparu comme une évidence. Alors, quand on rentre dans la lecture, on aurait pu appeler ça aimer de tout son corps, de tout son cœur et de toute sa tête ou de tout son esprit. Ça faisait un peu long comme titre. Et puis, c'est vrai que la sexualité, on la vit d'abord et avant tout dans le corps. Et je pense que ça fait partie des messages un peu forts que j'essaie de faire passer, de pouvoir habiter cette sexualité, voilà, être connectée à cette dimension corporelle. Et après, le sous-titre, chemin de sexualité, chemin de libération vers une sexualité qui vous ressemble. Le thème de la liberté, déjà, c'est quelque chose qui m'est très cher. Et ce que j'observe en consultation, c'est ce que je vois, c'est vraiment tout ce qui vient entraver, tout ce qui vient faire obstacle, déjà, chez chaque personne et après, dans les relations, dans le couple. Oui, c'est ça, ça agit comme des entraves, c'est des poids dont on a besoin de se défaire. Et moi, je vois en consultation parfois des libérations et ça se ressent presque physiquement. Et donc, c'est vraiment ce chemin-là que j'avais envie de proposer. Donc déjà, d'identifier ce qui faisait obstacle, ce qui venait entraver, pour pouvoir se libérer. Et après, pour trouver la sexualité qui vous ressemble, dans le sens, pour répondre à des codes, pas pour répondre à des schémas, des diktats qu'on a pu recevoir de façon plus ou moins consciente. Et du coup, c'est important déjà de les identifier, d'en prendre conscience, pour pouvoir ensuite être là où on a envie d'être, là où on est aligné, et pas là où on s'est laissé porter par les messages qu'on a reçus, l'éducation qu'on a reçue, pour pouvoir intégrer quelque chose qui est ajusté à soi.
Bon, alors je sens qu'on va se régaler, on va rentrer un peu plus en détail dans tout ce que tu viens de dire. Dans tout ce que tu as dit, j'ai retrouvé un peu tous les points que je veux explorer avec toi aujourd'hui. Évidemment, on va pas pouvoir reprendre l'entièreté du livre, mais l'idée, c'était de venir un peu mettre le doigt sur moi des points qui me semblaient intéressants à partager avec nos auditeurs. Et après, évidemment, l'idée, c'est qu'ils puissent aller dans ton livre, qu'ils s'y plongent. Un livre, je le dis tout de suite, qui se lit vraiment très bien, qui est très pratico-pratique, avec des rubriques. Donc, et je pense qu'il est même parfait à partager à deux, à lire à deux. C'est vraiment ce que j'ai ressenti en le lisant, en tout cas. Alors, dans ta partie 1, qui s'intitule « La connaissance, première étape de libération », il y a tout un passage qui s'appelle « Connaissance de soi, compréhension de l'autre », où tu parles de la connaissance de soi avec trois dimensions de la personne, la tête, le cœur et le corps. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ces trois dimensions et sur la façon dont elles vont venir imprégner, impacter notre vie sexuelle? Et puis, bien évidemment, est-ce que... alors, tu pourras nous dire quel est l'intérêt de se connaître, de savoir quelle est notre tendance, et puis de quelle façon, comment reconnaître notre tendance, comment se découvrir soi sur ce point-là.
Alors, ces trois dimensions, tête, cœur, corps, je pense qu'on en a déjà parlé plusieurs fois dans des épisodes précédents, donc pour toi, ça a dû faire écho à des échanges qu'on a pu avoir. Moi, donc, ce que j'aime bien partager comme piste de compréhension de la personne, c'est que nous sommes en trois dimensions, tête, cœur, corps. Et ces trois dimensions, elles nous donnent des informations différentes sur nous, sur chacun. Et ces trois dimensions, elles nous permettent, quand elles sont alignées, les trois là, d'être vraiment là où on est bien, quoi. C'est ça qui va faire que on va se sentir bien, c'est quand on est aligné. Enfin, en tout cas, moi, c'est ma conviction. Sauf que c'est l'objet d'un travail. On n'est pas aligné comme ça par un coup de baguette magique. Et ce travail, il a un point de départ. Et donc, le point de départ, chez chacun, il va être différent. Il y a des personnes qui vont d'abord capter les situations, les relations, les événements par le prisme des pensées, d'autres par le prisme des émotions et d'autres encore par le prisme des sensations. Et donc... quelqu'un qui va d'abord capter les événements, les situations par le prisme des pensées, par exemple, eh ben, dans les pensées, il va y avoir tout un tas de jugements, il va y avoir tout un tas d'analyses, il va y avoir tout un tas de pensées annexes qui peuvent aussi parfois se télescoper, se percuter, être source d'ambivalence, etc. Et donc, le fait de savoir déjà que moi, c'est par là que ça commence pour moi, c'est par là que je vais capter les choses, et ben ça va me permettre de travailler pour aller vers cet alignement. Il y a là où j'aimerais être, là il y a là où je voudrais, où je vais me sentir bien, où je sens que c'est ce que je vais être bien, et puis j'observe que j'y suis pas, en fait. Donc avoir conscience de mon point de départ, et ben ça va déjà me donner un petit peu plus de visibilité sur le chemin à parcourir. Et après de connaître à la fois les atouts de ce point de départ, tout ce que ça va m'apporter comme compétences, comme compréhension de la situation, etc. Et puis toutes les limites que ça va avoir pour moi. Par exemple, si je suis dans les pensées, voilà ce que je disais, c'est que à la fois ça va me donner une bonne capacité d'analyse, mais en même temps, ce qui va être limitant, ça va être les jugements que je peux avoir, les pensées limitantes, etc. Si je suis d'abord dans le prisme émotionnel, ça va me donner par exemple une grande empathie, une connexion à ce que vit l'autre, etc. Mais ça va être aussi parfois très envahissant, ça va être compliqué parfois aussi de faire le distinguo entre l'émotion que je ressens et l'émotion que ressent l'autre qui va être autre. Et donc parfois ça va créer des distorsions ou des complications dans la relation parce que chacun arrive avec son histoire, sa sensibilité, etc. Et donc ça c'est des choses que j'ai déjà pu entendre en consultation, mais face à une même situation... deux personnes d'un couple qui vont dire « mais je comprends pas pourquoi moi j'ai ressenti ça et lui pas du tout et on s'est pas du tout rejoint là-dedans ». Donc prendre conscience que pour moi c'est l'émotionnel qui va être en première ligne et du coup pouvoir prendre le temps d'aligner cette émotion, de la laisser se décanter pour laisser aussi l'espace après à ma raison de venir visiter la situation, d'écouter ma sensation aussi, voilà, laisser l'espace à cet alignement. Et pour prendre l'exemple de quelqu'un qui serait d'abord dans la sensation corporelle, ça va être des personnes qui vont être très instinctives, etc. Mais l'instinctif, il peut aussi avoir ses limites parce que c'est pas toujours adapté, ajusté comme comportement par rapport à la situation qu'on vit, par rapport à la relation dans laquelle je suis à ce moment-là. Donc voilà, avoir conscience, avoir connaissance de son fonctionnement pour pouvoir connaître son point de départ, pour pouvoir visualiser le chemin que je peux faire et puis avoir bien conscience aussi des atouts et des limites de mon fonctionnement.
Est-ce qu'avoir cette connaissance de soi, est-ce que c'est la problématique ou la question de toute une vie ou est-ce que par exemple après l'écoute de ce podcast, on peut se dire je fais un ou deux exercices et je sais qui je suis à ce niveau-là?
Bah, la connaissance de soi, je pense que c'est vraiment l'histoire de toute une vie d'aller de plus en plus en profondeur, et c'est ça qui est hyper enthousiasmant, et c'est ça qui est hyper enthousiasmant aussi dans la relation, c'est que on n'a jamais fini de faire le tour d'une personne, et en plus il y a mon fonctionnement de base, et puis il y a comment je vais pouvoir travailler sur moi, comment je vais pouvoir évoluer, comment je vais pouvoir mûrir, comment je vais pouvoir m'améliorer, comment face à certaines situations je vais être aussi un petit peu polie par la vie, un peu voilà. Donc évidemment que c'est un chemin qui n'a pas de terminus réellement. Après, le fait d'avoir cette clé, ça c'est une clé de connaissance de soi, de savoir quel est mon premier centre, tête, cœur ou corps. Et après, ce qui est intéressant dans la relation, et en particulier dans la relation de couple, c'est d'avoir conscience que ça c'est mon fonctionnement et que le fonctionnement de l'autre, il est différent et que du coup, en connaissant chacun nos points de départ, on va pouvoir trouver aussi le chemin qui va nous relier. Ça qui est passionnant dans la relation.
Est-ce que tu peux nous donner un exemple de trois questions qu'on peut se poser pour savoir quelle est notre tendance ?
Alors déjà, il y a quelque chose qui est assez symptomatique, c'est hyper drôle, c'est le vocabulaire qu'on emploie. Quand dans une discussion assez banale, ça va, enfin comment tu vas, la personne cérébrale, elle va dire je pense, elle va dire je crois, elle va dire ça va être vraiment un vocabulaire lié à l'intellect. Alors que la personne émotionnelle, elle va dire je me sens stressée ou je me sens excitée ou voilà. Et la personne qui est plutôt sensorielle, plutôt instinctive, elle va avoir un langage plutôt lié au corps, dire je me sens fatiguée, je me sens fourbue ou je sais pas quoi. Donc ça, c'est un petit exemple assez symptomatique. Et puis après, faut s'observer dans les situations, voir est-ce que la première chose face à une situation nouvelle qui va se manifester à moi, ça va être une sensation, par exemple, j'ai les mains moites, ah oui, je suis stressée. Ah oui, parce que j'ai pensé ça de la situation, parce qu'il se passe ça. Ou je vais observer que j'ai tout un tas de pensées qui commencent à gamberger. Bon, là, c'est que j'ai plutôt, je suis plutôt quelqu'un de cérébral. Ou je vais avoir ces grandes fluctuations émotionnelles, etc. Bon, ça va être ça, mon premier centre. Donc, il s'agit un peu de s'observer en situation. Et parfois, on peut avoir l'impression d'être très instinctif, d'avoir l'impression d'être très connecté. Moi, j'étais persuadée d'être très, très connectée à mes sensations corporelles. Et en fait, je me suis rendu compte que moi, mon premier centre, il était d'abord le cérébral, le mental. Mais il y a aussi les épreuves de la vie, mais en tout cas, les expériences de la vie qui vont peut-être favoriser l'alignement des trois dimensions, le travail sur soi aussi. Donc, c'est peut-être plus facile de réaliser, de prendre conscience de ce premier centre en pensant à comment on a pu être. Parce que c'est vrai que quand on a traversé diverses expériences, ça c'est un petit peu poli.
Et ce que je trouve intéressant, c'est que tu dises, tu as parlé de connaître le sien, mais connaître, savoir comment est l'autre, c'est un peu comme les langages de l'amour en fait. C'est pas le tout de savoir quel est son langage, mais parce qu'à l'autre, il va falloir connaître le sien pour lui parler. Et là, c'est intéressant aussi d'avoir cet échange avec son conjoint, sa conjointe, pour savoir toi comment tu te sens là-dessus et moi comment je te perçois, comment je pense que tu es. Sur l'intérêt de se connaître sous cet angle. Dans ton livre, tu parles de levier du désir. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ?
Oui, alors parce que ce que j'observe, c'est que du fait de cette dimension première chez chacun, qui va être différente en fonction des personnes, le désir vient se manifester, vient se révéler de façon privilégiée, première, d'abord sur l'un de ces trois centres en fonction de mon fonctionnement. Donc la personne qui est cérébrale, eh ben son désir, il va d'abord se manifester la plupart du temps, par le prisme des pensées. Et la personne émotionnelle, par le prisme des émotions, la personne corporelle, par le prisme des sensations. Et donc, pareil, avoir conscience de ça, c'est une clé incroyable, parce que on a tendance, dans l'imaginaire collectif, à réduire le désir sexuel à la pulsion sexuelle, sauf que la pulsion sexuelle, ce n'est qu'une dimension du désir. Et donc, quand on ressent pas cette pulsion sexuelle avec des signaux sensoriels d'excitation, et bien la conclusion qu'on va en tirer, c'est « je n'ai pas de désir ». Et quand je pose la question « mais est-ce que vous avez des pensées liées au désir ?» et la personne cérébrale, elle va dire « ah mais oui, en fait, bien sûr, j'ai des pensées ». Sauf que comme j'avais pas pris conscience, j'avais pas cet éclairage des trois leviers, et ben c'était une pensée parmi d'autres. Et puis comme en plus dans la tête il y a tout un tas d'autres pensées, et ben cette pensée elle est vite chassée par une autre. Donc quand je sais que ça va être ça mon point de départ pour mon désir, et ben je peux du coup observer cette pensée là qui me traverse par rapport liée à mon désir, rester avec cette pensée, choisir de l'accueillir, de lui laisser de la place. Et observer comment cette pensée, quand je reste avec, elle va descendre dans le cœur, dans le corps et avoir un impact sur mon excitation sexuelle. Et pareil, quel que soit le point de départ, comment face à mon excitation sexuelle qui va être peut-être plutôt pulsionnelle, comment je vais d'abord déjà goûter cette excitation sexuelle et la laisser remonter dans la dimension émotionnelle et dans la dimension cérébrale pour s'aligner. Et pour qu'elle se pose aussi, parce qu'il y a quelque chose d'un peu jaillissant dans la pulsion qui peut être aussi envahissant pour moi d'abord et puis pour mon couple quand c'est pas le bon timing, le bon moment ou je sais pas quoi. Donc le fait de faire ce travail d'alignement, bah, ça permet aussi de poser dans l'espace déjà de la personne et ensuite du couple, ce désir. Et une fois que ce désir il est posé dans l'espace du couple, et ben chacun va pouvoir se positionner pour trouver l'endroit où on va pouvoir se rencontrer.
Passionnant, passionnant. C'est vraiment, tu te dis que tu as tout un monde en fait à découvrir sur ta propre sexualité et enfin c'est ça que tu vis dans ton couple quand on t'écoute. Est-ce que tu peux nous dire alors la partie 2 de ton livre s'intitule Des schémas à déconstruire, des blessures à guérir. Alors là, je pense qu'on pourrait faire un épisode entier sur le sujet. Est-ce que tu peux juste nous dire quelques mots sur ce qui peut être un frein d'épanouissement sexuel? Est-ce que en fait l'idée c'est ici de donner des pistes de réflexion à nos auditeurs en se disant voilà, moi je me sens pas épanouie, je me sens pas très à l'aise dans notre vie sexuelle. Oui, effectivement, avec ce que dit Flavie, peut-être qu'il faudrait que je travaille sur tel ou tel point. Peut-être que ça, effectivement, ça vient impacter ma façon de vivre cette sexualité. Voilà. Évidemment, chaque thème que tu vas donner pourrait être développé. Mais là, l'idée, c'est un peu d'éveiller. Et après, évidemment, que dans le livre, on peut en savoir beaucoup plus, en connaître beaucoup plus. Mais déjà, tu vois, éveiller quelque chose.
Alors oui, il y a quelque chose qui est assez déroutant, c'est d'une façon globale dans la sexualité, c'est de se dire mais en fait la relation sexuelle, la rencontre dans l'intimité sexuelle, ça devrait être quelque chose d'hyper évident, spontané, naturel, et on observe que ce n'est pas le cas parce qu'il y a tous ces obstacles qu'il y a déjà chez chacun entre moi et ma sexualité. Tout ce qui vient, donc ça va être les messages reçus dans l'éducation, les schémas, les pensées, les idées reçues qu'on peut avoir sur la sexualité. Il va y avoir toutes les blessures dans nos expériences liées à notre vie affective, sexuelle. Il va y avoir, et ça j'y consacre un chapitre entier, la question des abus qui sont parfois enfouis dans l'inconscient en plus, dont on n'a pas toujours conscience au niveau, parce que déjà c'est trop douloureux, mais qui laisse quand même des traces. Il y a le sujet du porno aussi, parce que tout le monde aujourd'hui a été touché de près ou de loin par le porno, et ça laisse des traces. Il va y avoir la question de la charge mentale aussi, qui est un sacré obstacle à la connexion à sa propre sexualité, à sa dimension de personne qui habite un corps sexué. Et donc, tous ces obstacles intérieurs, eh ben ils empêchent d'avoir une disponibilité à l'autre. Et donc, du coup, ça va faire obstacle à la relation dans l'intimité sexuelle.
Mais la bonne nouvelle, c'est que tout ça, tu vas me dire que tout ça se travaille, j'imagine, et qu'une fois qu'on l'a accepté, qu'on l'a compris, qu'on l'a analysé, on peut, je ne sais pas si le terme est juste, s'en libérer pour vraiment vivre justement une sexualité qui nous ressemble et que l'on souhaite.
Ah bah c'est le but, hein. C'est le but de ce parcours que je propose, c'est vraiment de pouvoir se libérer de ces obstacles. Donc forcément, on peut pas faire une liste exhaustive de tous les obstacles qui peuvent exister, mais le but c'est d'abord de les identifier, parce que une fois qu'on les a identifiés, on va pouvoir mettre en place un travail, une stratégie pour pouvoir soit les surmonter, soit les contourner, soit les aplanir, et que ça puisse circuler en moi et que ça puisse circuler entre nous.
Alors, on va faire un petit focus, si tu veux bien, sur l'impact que peut avoir la charge mentale que l'on porte sur notre vie sexuelle. J'ai vu ce passage dans ton livre et je me suis dit, voilà, faut qu'on en parle même brièvement, parce que je sais que ça va intéresser, je sais que c'est une problématique, on l'a déjà eu dans le podcast. Voilà, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et puis nous donner des pistes pour pouvoir travailler sur le sujet? Comment on peut s'en libérer?
Alors, le sujet de la charge mentale, c'est évidemment très tendance. La charge mentale, c'est quoi? C'est toutes ces pensées, toutes ces actions que je dois, auxquelles je pense et qui tournent sans cesse dans ma tête. Et le problème avec cette charge mentale, c'est que elle est infinie, elle ne s'arrête jamais. Et chez les personnes pour qui ça va accaparer un petit peu l'esprit et l'attention, eh ben, si mon esprit, il est accaparé par toute la liste des choses à faire, eh ben, il n'y a pas de disponibilité pour d'autres pensées, déjà pour ce que je vis intérieurement et puis pour ce qui se vit dans mon couple. Donc déjà, avoir conscience que c'est ça qui se passe chez moi. Il y a le sujet de la charge mentale qui est un sujet. Et choisir de s'accorder des petites pauses. Accepter, ça se fait pas d'un coup de baguette magique, c'est un travail, c'est un entraînement, mais se dire en fait je sais que une fois que j'aurai plié mon linge, eh ben il faudra que je mette en route une nouvelle machine et il faudra que je prépare le dîner pour ce soir et il faudra machin. Mais ça, en fait, je peux aussi m'accorder un petit moment de pause pour juste être avec moi-même, observer ce que je vis en moi, parce que quand je suis dans l'action, quand je suis dans les pensées, etc., je suis pas connectée à ce que je vis intérieurement. Et donc, faire des pauses régulières qui de quelques secondes qui ne vont pas du tout nous mettre dans le rouge par rapport à toutes les actions que j'ai menées, pour me réancrer, pour me réaligner à ce que je suis, pour me reconnecter à moi-même et notamment à cette le fait que je suis une personne avec un corps sexué, donc que j'ai une sexualité, eh ben ça va déjà permettre de s'offrir des petits espaces de respiration, de repos, parce que être continuellement dans les pensées qui tournent sur tout ce que j'ai à faire, c'est épuisant. Et du coup, bah, s'accorder des petites pauses, ça va déjà être une façon de s'accorder un peu de repos. Et après, ça va être aussi de découvrir que là, je fonctionne sur batterie depuis toujours. Donc de temps en temps, je vais recharger un peu les batteries, je m'offre des vacances, je m'offre une séance de sport, etc. Ça recharge mes batteries. Mais moi, le chemin que j'ai envie de proposer à ces personnes-là, c'est de trouver la prise secteur qui est se connecter à sa sexualité. La sexualité, elle est un moteur, mais de dingue. C'est une énergie incroyable. Et quand je fais cette expérience-là, que je peux m'y connecter, que je peux m'y brancher, mais en fait, je suis capable de réaliser un max de trucs. Et surtout, du coup, ça me rend aussi vachement disponible pour la relation. Et mon attention et mon énergie ne vont plus être tournées ou conditionnées que par est-ce que les circonstances extérieures, j'ai coché toute ma to-do list. Et donc, du coup, il reste un peu de temps pour la relation. Ce que j'observe aussi parfois, c'est j'ajoute sur ma to-do list passer un moment d'intimité avec mon conjoint ou je sais pas quoi. Et du coup, je suis pas dans la bonne énergie pour la rencontre. Donc, si je trouve la prise secteur, là, ça va changer la vie des personnes qui sont pas mal accaparées par cette charge mentale.
Ouais, et j'aime beaucoup quand tu dis que la sexualité, vivre sa vie sexuelle, c'est une énergie de dingue. Et effectivement, enfin, tu sais, souvent on voit l'heure, on se met au lit, il est déjà peut-être 23h, on se dit ah, demain faut se lever tôt, et pourtant on a envie, mais on n'y va pas en se disant on sera plus fatigué. Mais moi, je trouve qu'en fait, peut-être que on s'endormira une heure plus tard parce qu'on aura fait l'amour. Mais en fait, toute cette énergie qu'on aura gagnée, qu'on aura emmagasinée en faisant l'amour, en ayant vraiment cette rencontre avec l'autre, en fait, au matin, c'est de ça dont on va se souvenir et pas de l'heure en moins dont on aura dormi. Donc, je trouve que c'est vraiment quelque chose à quel il faut penser. Je trouve cette énergie qui se dégage, ce bien-être, cet attachement à l'autre qu'on entretient par sa vie sexuelle. Parfois, effectivement, ça peut demander un effort, ça demande une énergie supplémentaire, ça demande de ne pas se projeter dans le lendemain parce que le réveil va sonner tôt, juste dans le moment qu'on veut vivre et se souvenir, si on est plus cérébral, de la dernière fois, de comment ça a été bon après. Mais je pense que c'est important d'entretenir tout ça et de se dire que oui, il y a une vraie énergie à trouver dans les relations sexuelles.
Ouais, et puis, alors ça suffit pas de se le dire, faut vraiment en faire l'expérience. parce que c'est ça qui va permettre après de pouvoir faire mémoire de ces moments qu'on aura vécu, qu'on ont été une source de joie, d'énergie, d'élan vital, etc. Et d'ailleurs, on va beaucoup mieux dormir après avoir fait l'amour que en restant à cogiter, à tourner avec sa liste de sa to-do list. Mais c'est vrai que ça suffit pas juste de le dire et de dire mais si, enfin c'est pas quelque chose que je peux le savoir si je l'ai pas intégré à mon expérience, voilà.
Donc, oui, mais en fait, le je dis parce que le fait de l'entendre, on peut le réaliser, se dire bah oui en fait elles ont raison les filles là, faire l'amour, ça me donne, c'est pas forcément quelque chose qu'on se dit naturellement, mais le fait de l'entendre après le conscientiser, on va l'intégrer et ça peut être un argument de plus en se disant allez pense pas à ta fatigue, tu le sais que ça va être source d'énergie derrière, donc vas-y, tu vois, mais en fait on l'entend peu.
Ouais, ça va donner la petite audace et puis en fait laisser aussi, parce que ce que j'observe chez des personnes pour qui ça tourbillonne pas mal dans les pensées, c'est que il y a plein de pensées diverses qui se passent dans la tête et du coup de laisser mettre la lumière, donner le micro aux pensées qui vont plutôt favoriser le rapprochement, la connexion, et puis mettre un petit peu plus en sourdine les pensées de est-ce que j'ai bien préparé ma réunion pour demain, est-ce que j'ai bien pensé à tout ça, c'est peut-être ça, voilà, pas forcément aller essayer de conquérir quelque chose que je vis pas déjà ou me convaincre de quelque chose, mais juste augmenter le volume des pensées qui me traversent et qui me disent mais si, c'est chouette, souviens-toi.
Merci Flavie, je sais que ton temps est compté, mais je veux vraiment te poser cette question, t'essayes de répondre de façon très rapide. Ta troisième partie s'appelle « Vivre la sexualité qui nous ressemble ». Moi, je voudrais que tu me donnes quelques pistes pour savoir comment on peut passer d'une sexualité qui me ressemble à une sexualité qui nous ressemble. Chacun va arriver dans son histoire d'amour avec sa vision de la sexualité, son éducation, potentiellement déjà aussi son vécu. Comment est-ce qu'on s'en détache pour faire se créer à deux une nouvelle sexualité?
Je sais pas si c'est s'en détacher, mais en tout cas, c'est déjà déposer, se faire l'état des lieux de comment on arrive tous les deux dans cette relation. Voilà moi les croyances avec lesquelles j'ai grandi sur les messages que j'ai pu recevoir sur le couple, la relation, la sexualité, le corps, et toi. Voilà l'image que je me fais de la sexualité, l'image que je me fais de la relation sexuelle. Voilà les expériences que j'ai vécues, voilà ce que j'aimerais vivre. Et voilà, que ce soit de créer un espace dans la relation dans lequel on va pouvoir déposer humblement et avec confiance tout ce avec quoi j'arrive, parce que c'est avec ça qu'on va composer en fait. On va pas faire table rase de nos deux vécus et construire comme si il y avait rien eu avant. On va arriver avec nos casseroles, avec nos pépites, et on va essayer de, avec tout ça, construire quelque chose de merveilleux qui soit à notre ressemblance, avec nos attentes, nos peurs, nos doutes, nos insatisfactions, voilà. Et donc, en créant cet espace de confiance, de sécurité dans lequel je peux déposer tout ça, le couple va nourrir son intimité de couple. L'intimité, c'est vraiment un espace de sécurité dans lequel je peux complètement tout lâcher, tout déposer. Et la qualité de cette intimité émotionnelle, intellectuelle, spirituelle, va être le terreau favorable à une intimité sexuelle magnifique.
Ce que tu nous dis, c'est que la communication est évidemment une clé pour construire à deux cette sexualité. Donc là, tous ceux qui écoutent cet épisode vont se dire, bah oui, même si on a déjà d'ailleurs une sexualité qui semble épanouie, il faut toujours en parler. Mais le sujet est pas toujours facile, je trouve, à aborder et à amorcer. Est-ce que tu peux nous donner, allez, 3-4 questions? Il y en a pas mal dans ton livre, mais pour ceux qui l'ont pas encore, 3-4 questions qui pourront mettre sur la table, se poser samedi soir autour d'un verre, pour parler de leur sexualité.
Alors peut-être la première question, ce serait qu'est-ce que je mets derrière le terme sexualité ? Moi, je sais que j'ai une définition qui m'est propre et que j'aime bien proposer, mais du coup, je trouve ça toujours intéressant de se dire qu'est-ce que moi je mets derrière le terme sexualité ? Qu'est-ce que ça englobe comme réalité pour moi ? Peut-être la deuxième question que je pourrais suggérer, c'est avec quelle image, qu'est-ce que j'ai reçu dans mon éducation ? Qu'est-ce qu'on m'a transmis ? En creux ou en plein, c'est-à-dire quel message j'ai entendu, quelle phrase j'ai entendu, mais aussi quels sont les non-dits, les tabous qu'il y a pu avoir autour du sujet et qui ont forcément imprimé des messages en creux. Donc du coup, prendre conscience de ces messages et puis pouvoir se les partager. Et puis peut-être une troisième question serait, qu'est-ce que j'attends de notre sexualité de couple? Qu'est-ce que j'ai envie d'y trouver? Qu'est-ce que j'ai envie d'y vivre avec toi? Voilà, ce me paraît trois questions de base qui peuvent être l'occasion d'un riche échange.
Ouais, et qu'on peut vraiment, approfondir avec toutes celles qui sont proposées dans ton livre. Ceux qui ont lu Les 5 clés de l'amour durable se retrouveront complètement dans ton ouvrage. On a déjà le même éditeur, Erol. Et puis voilà, on a une façon de concevoir le livre assez identique, avec toujours, je pense, ce souci de vouloir faire quelque chose qui soit impactant pour le lecteur, pas une lecture passive, mais qui donne envie vraiment de s'y mettre et puis de s'y mettre à deux. Donc voilà, filez, vous procurez en librairie, à la FNAC, par Internet, sur Amazon. Je vous rappelle le titre, « Aimer de tout son corps, chemin de libération vers une sexualité qui vous ressemble » de Flavie Ten. Flavie, un grand, grand merci. Je pense qu'on va se retrouver très vite pour un nouvel épisode, mais là, on aura déjà cette phase de recevoir un auditeur ou une auditrice pour qu'on puisse échanger à trois. Mais c'était passionnant, cette conversation juste en tête à tête. J'ai beaucoup aimé. J'espère que nos éditeurs ont passé aussi un bon moment. Merci à toi et puis bon lancement. En tout cas, j'ai vu que voilà, ça se relayait bien. Donc c'est chouette, mais c'est vraiment mérité parce que c'est un livre à s'offrir et je pense à offrir aussi, à parler, dont on peut vraiment parler autour de soi. Donc bravo Flavie. Et puis merci à tous pour votre écoute et on se retrouve très bientôt sur un nouvel épisode d'Au cœur du couple.
Si vous aussi vous rencontrez des difficultés dans votre vie de couple, venez nous en parler. Laissez-nous un message sur aucoeurducouplepodcast@gmail.com ou via Instagram sur la page Au cœur du couple.
Nous sommes là pour vous. Merci pour votre écoute et n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à nous mettre des étoiles. Et n'oubliez pas, vous êtes les premiers acteurs de votre couple.